soir à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 23 juin 2014. Chez Robin Dorcy et Timothée Donangmaï, en votre compagnie. Au sommaire ce soir...
Libération au Soudan de la chrétienne condamnée à mort pour apostasie.
Au Nigeria, explosion dans une école de santé publique à Kano, bilan au moins 8 morts.
À Bangui, militaires européens et chauffeurs centrafricains discutent de la libre circulation des personnes.
Nous avons déployé nos forces sur toutes les grandes avenues afin d'empêcher tout criminel de gêner la population de Bangui et qu'elle puisse vivre et se déplacer normalement.
Le colonel David, officier de l'Euphor.
C'est le tollé mondial suite à la condamnation en Égypte de 3 journalistes de la chaîne Al Jazeera.
Et dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde,
les États-Unis entre espoir et déception.
Les Algériens font rêver.
La machine hollandaise offre un sans faute au premier tour.
Les Camerounais vont-ils sauver l'honneur ce soir face au Brésil?
Nous sommes toujours là, bien que découragés. Bon, nous disons que nous supportons toujours le Lion. Nous n'allons pas changer de nationalité maintenant.
Et la musique en fin d'émission. Mais d'abord, le journal.
Libération au Soudan de la chrétienne condamnée à mort pour apostasie. Selon les avocats de Myriam Yahya Ibrahim Ishag, les autorités judiciaires expliqueront demain les raisons de cette libération. Née d'un père musulman et d'une mère chrétienne, cette femme de 27 ans avait été coupée de la peine capitale pour son refus de renoncer à sa foi chrétienne pour l'islam. Elle avait aussi été condamnée pour adultère en raison de son mariage à un non-musulman.
Au Nigeria, au moins 8 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans l'explosion d'une bombe ce lundi dans l'enceinte de l'école de santé publique de Kano. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon l'AFP, l'explosion a eu lieu vers 12 heures, temps universel, et semblait provenir du parking situé à côté du bureau du directeur de l'école supérieure de santé publique de Kano, la plus grande ville du nord Nigeria. Adeleye Shinaba, le chef de la police locale, a fait état d'au moins 20 victimes qui ont été transportées à l'hôpital, et parmi elles, 8 morts. Il a ajouté que la bombe a été déposée par un suspect qui a pu être appréhendé et se trouve actuellement en garde à vue. Il n'y avait pas de cours au moment de la déflagration, l'école étant fermée pour les vacances, mais de nombreux étudiants étaient venus s'inscrire pour la rentrée prochaine. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais Boko Haram, qui signifie que l'éducation occidentale est un péché, a souvent mené des enquêtes contre des établissements scolaires. Des centaines de lycéennes enlevées depuis la mi-avril par les islamistes n'ont toujours pas été retrouvées.
En RCA, situation tendue à Bambari, dans le centre du pays, où des milliers de personnes ont fui vers la cathédrale Saint-Joseph pour échapper à d'éventuelles représailles des ex-Séléka. Le point avec Idriss Fall.
Au moins 7 membres de l'ex-coalition rebelle ont été tués et Ahmed Nejad Ibrahim, porte-parole de l'état-major des ex-Séléka, parle de carnage orchestré par des anti-Balaka à 9 km de Bambari. Craignant des représailles, des milliers d'habitants ont trouvé refuge dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Joseph. À Bangui, la libre circulation des personnes a été au centre d'un entretien entre la force européenne et les représentants du syndicat des conducteurs de taxis et bus. Le colonel David, officier de l'Euphor.
Nous sommes déterminés à ramener la paix et la sécurité dans Bangui. Actuellement, depuis samedi dernier, nous avons déployé nos forces sur toutes les grandes avenues afin d'empêcher tout criminel de gêner la population de Bangui et qu'elle puisse vivre et se déplacer normalement. Nous travaillons en étroite collaboration avec la MISCA, avec la force Sangaris et avec les forces de sécurité intérieure centrafricaines. Nous sommes déployés 24 heures sur 24 partout.
Plus de 650 soldats de l'Euphor sont déployés à Bangui aux côtés de la force sangariste et de la MISCA.
Un tribunal égyptien a condamné 3 journalistes d'Al Jazeera à 7 ans de prison pour avoir soutenu les frères musulmans et pour avoir diffusé de fausses nouvelles. Une condamnation qui a créé un tollé mondial. Claire Morin-Gibourg.
Le verdict est tombé ce lundi pour les 3 journalistes de la chaîne Al Jazeera. Mohamed Fadel Fahmy, chef du bureau, son confrère australien Peter Grest, ont été condamnés à 7 ans de prison et leur collègue égyptien Baher Mohamed, lui, a écopé 10 ans de prison. Al Jazeera a toujours nié les accusations contre ses employés. Elle a qualifié le verdict de choquant et promet de continuer sa campagne intitulée « Le journalisme n'est pas un crime ». Cette condamnation est effrayante, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry depuis Bagdad. Navi Pillay, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, se dit choqué et très alarmé. Pour Amnesty International, c'est un jour noir pour la liberté de la presse en Égypte.
Fin en Afrique du Sud de la grève qui paralysait les principales mines de platine depuis 5 mois. Les compagnies minières et les syndicats de mineurs sont parvenus aujourd'hui à un accord qui sera signé demain. Les mineurs, eux, retourneront au travail mercredi. Les compagnies Lonmin, Impala Platinum et Anglo American Platinum chiffrent à plusieurs milliards de dollars leur manque à gagner découlant de la longue grève.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Visite impromptue ce lundi du secrétaire d'État américain à Bagdad, John Kerry y a rencontré de hauts dirigeants chiites du pays et les a exhortés à former un gouvernement élargi face à l'offensive des djihadistes sunnites qui ont pris de vastes territoires dans le nord et l'ouest de l'Irak. Jacques Aristide.
Réunion de plus d'une heure et demie du chef de la diplomatie américaine avec le premier ministre irakien et un important dignitaire religieux chiite, de même que deux dirigeants sunnites. C'était bien, c'est tout ce qu'a laissé entendre John Kerry en regagnant sa voiture. Quant au chef du gouvernement irakien, il a fait part au secrétaire d'État américain de ses craintes concernant l'avancée fulgurante des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. Pour Nouri al-Maliki, elle représente une menace non seulement pour l'Irak, mais pour la paix régionale et internationale. Il a appelé à des frappes aériennes américaines contre les insurgés. Washington s'était dit prête à une action militaire ciblée et précise en Irak, mais aucune décision n'a encore été prise. Les États-Unis n'ont pas appelé publiquement à la démission de M. Maliki, mais lui ont demandé à maintes reprises de former un gouvernement inclusif qui comprendrait davantage de sunnites et de kurdes.
Le chef de la commission électorale afghane a annoncé aujourd'hui sa démission après avoir été accusé de fraude par le candidat à la présidentielle Abdullah Abdullah. Zia ul Haq Amar Khalil a rendu le tablier tout en niant les faits qui lui sont reprochés. Il a dit se retirer dans l'intérêt national. Jean-Roger Bion.
Le candidat Abdullah Abdullah avait accusé Amar Khalil d'avoir bourré les urnes en faveur de son rival Ashraf Ghani. Son équipe de campagne a dévoilé dimanche des enregistrements audio de qualité médiocre qui mettent en scène Amar Khalil et d'autres agents électoraux en pleine discussion avec un membre de l'équipe de Ghani sur le trucage du second tour. Le chef de la commission électorale a expliqué au Wall Street Journal qu'il ne se souvenait pas d'une telle conversation et a dit plus tard que les enregistrements audio étaient faux. Zia ul Haq Amar Khalil a annoncé dans la foulée sa démission à Kaboul afin, dit-il, de renforcer la confiance. Il dit par ailleurs espérer que sa démission permettra à Abdullah de coopérer à nouveau avec la commission électorale indépendante en mettant fin à son boycott. Abdullah Abdullah, arrivé en tête au premier tour, a immédiatement mis fin à son boycott. Les premiers résultats provisoires du second tour sont attendus le 2 juillet et les résultats définitifs le 22 juillet.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont menacé la Russie de nouvelles sanctions en cas de non-respect du plan proposé par le président ukrainien pour mettre fin aux violences dans l'est de son pays. Moscou et Kiev ont entamé des pourparlers à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Dans une déclaration conjointe, les ministres de l'UE demandent au président Vladimir Poutine de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne. Les dirigeants européens seront prêts à prendre une décision relative au renforcement des sanctions contre la Russie lors d'un sommet vendredi à Bruxelles, a dit le secrétaire au Foreign Office William Hague. Mais cela dépendra de la réponse de Moscou au plan du président Petro Poroshenko.
Un leader religieux pakistanais qui vivait en exil au Canada est rentré aujourd'hui dans son pays dans le dessein avoué de diriger ce qu'il appelle une révolution contre le premier ministre Nawaz Sharif. L'avion de Tahir ul Khadri devait atterrir à Islamabad, mais suite à des heurts entre ses partisans et la police à l'aéroport, il a été contraint de se rendre à Lahore. Des mesures de sécurité renforcées étaient en place à travers toute la capitale pakistanaise. Khadri est très populaire et des analystes croient qu'il a même le soutien d'une partie de l'armée.
10 membres de l'armée syrienne ont trouvé la mort cette nuit suite à des frappes israéliennes sur les hauteurs du Golan. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. L'ONG précise également que l'attaque a détruit 2 chars et 2 pièces d'artillerie. Selon les responsables israéliens, les frappes visaient les positions de tir et un quartier général de l'armée syrienne dans la région. Des cibles ont été atteintes, a-t-il ajouté. L'État hébreu réagissait ainsi à une attaque transfrontalière qui a tué un adolescent israélien hier dimanche.
L'agence onusienne chargée d'éliminer les armes chimiques de la Syrie annonce avoir reçu la dernière cargaison identifiée à cette fin. L'OIAC a confirmé le départ ce lundi du port de Latakié du navire transportant ce dernier stock d'armes chimiques. Selon le chef de l'organisation, il faudra 4 mois pour éliminer les 1300 tonnes déclarées par le gouvernement de Bachar al-Assad. C'est un progrès important, a déclaré l'ambassadeur adjoint de la Grande-Bretagne aux Nations Unies, Peter Wilson, mais la déclaration syrienne comporte des problèmes factuels et de procédures qui méritent d'être résolus, a-t-il fait remarquer.
Les États-Unis ont un message clair pour les parents d'Amérique centrale. Il n'y a pas de chemin vers la citoyenneté américaine pour les milliers d'enfants non accompagnés qui entrent aux États-Unis illégalement dans l'espoir d'échapper à la pauvreté et la criminalité dans leur pays d'origine. Dans une lettre ouverte publiée dans plusieurs organes de presse de langue espagnole, le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Jay Johnson, a dit que l'administration Obama n'est pas en train d'accorder des permis de séjour aux 47 000 enfants qui ont traversé la frontière cette année. La plupart de ces enfants sont venus du Honduras, du Salvador et du Guatemala et ont voyagé à travers le Mexique jusqu'à la frontière sud-ouest des États-Unis. Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 à Washington. Chez Romain Dorcil et Timothée Donangmai, en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Maintenant, la partie magazine de notre émission.
En Mauritanie, le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, a obtenu près de 82% des voix à la présidentielle de samedi, s'assurant ainsi une large victoire devant ses 4 adversaires. Le taux de participation a été de 56,46% malgré l'appel au boycott de l'opposition dite radicale. Comment expliquer cette sorte de plébiscite pour M. Abdelaziz? Idriss Fall fait le point avec Zakaria Ould Ahmed Salem, professeur de sciences politiques à l'Université de Nouakchott, actuellement en visite ici à Washington.
C'est la confirmation de la popularité de Ould Abdelaziz qui avait tenu les promesses de sa campagne électorale en 2009, de lutter contre la corruption, de mettre fin au terrorisme, d'assurer le développement des infrastructures. Aziz a mis beaucoup de transparence dans la vie publique et d'aptitude au dialogue avec l'opposition, notamment en 2011, quand il a ouvert un dialogue avec une partie de l'opposition modérée, qu'il avait fait des concessions considérables en termes de réformes constitutionnelles, etc. Il n'y a pas eu d'attentat en 2009 où ceux qui ont eu lieu ont été déjoués. Et il y a aussi une croissance économique assez importante de 6%. Donc je pense que c'est tout ça qui a été récompensé.
L'opposition dite radicale avait appelé au boycott.
Au vu des résultats, on constate que malheureusement pour elle, ça a été un échec, un peu plus de 56% de taux de participation. L'appel au boycott a été complètement ignoré des Mauritaniens. Ils sont un peu lassés visiblement de cette opposition qui ne propose que les boycotts, parce que l'opposition avait, rappelez-vous, boycotté aussi les élections législatives, elle avait boycotté les élections municipales. Le fait qu'elle boycotte les élections présidentielles a été mal compris, mal expliqué aux Mauritaniens. Par ailleurs, la plupart des dirigeants de l'opposition en Mauritanie, ce sont des gens qui étaient ministres dans les années 60, anciens présidents ou dirigeants militaires dans les années 70, dans un pays à 70% de moins de 30 ans, il y a un gros décalage entre des gens plutôt qui apparaissent comme des mécontents, des aigris de la génération précédente.
C'est ça qui explique plutôt la percée, disons, de Brahim Abeid, alors.
Brahim Abeid, moi je ne parlerai pas de percée. Il a dû profiter de beaucoup de choses pour avoir ses 9%. Il a devancé effectivement Ibrahim Mokhtar Sarr et Boy Jalil Hamouid. Biram profite effectivement de l'absence de l'opposition, mais qu'il aurait dû profiter beaucoup plus. Parce que souvenez-vous, en 2009, Massoud El-Berkher avait rassemblé près de 20% des voix. Et Wildada avait aussi eu un très bon score. Biram n'a pas profité tout à fait du boycott de l'opposition et il n'a pas fait une percée. Il a fait un score honorable.
Le second mandat d'Abdelaziz.
Les défis sont les défis de créer une nouvelle opposition. Parce que le dernier meeting du candidat Aziz avait pour thème le renouvellement de la classe politique. Parce qu'une démocratie a besoin d'une opposition. Et pour le moment, il n'y a pas d'opposition. Pour des raisons simplement parfois biologiques, les opposants les plus populaires en Mauritanie, ils ont presque 80 ans, qu'ils sont en fin de parcours. Et il y a bien sûr de très gros chantiers en termes d'infrastructures, de réformes de la justice, de réformes de l'éducation qui est complètement à terre en Mauritanie.
Zakaria Ould Ahmed Salem, professeur de sciences politiques à l'Université de Nouakchott, actuellement en visite ici à Washington.
La menace de Boko Haram au Cameroun a contraint les ouvriers chinois à abandonner divers chantiers dans le nord de ce pays. Depuis l'enlèvement de 10 de leurs collègues le mois dernier par les islamistes présumés, ces ouvriers disent qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Les précisions de Michel Joseph.
Le ministre camerounais des Travaux publics a dit à la VOA qu'il a dû suspendre les travaux de construction de la route Ngaoundéré-Kousseri, exécutée par les ouvriers chinois. Plusieurs ont quitté le chantier par crainte pour leur sécurité. Comment peut-on expliquer que la croissance et le développement d'un pays puissent être arrêtés à cause de ce genre d'action ? Le ministère de la Défense et de la Sûreté nationale doivent œuvrer en vue de ramener la sécurité pour permettre à ces compagnies de travailler sans crainte. Pour le ministre Ambassala, l'arrêt du chantier routier porte un sérieux coup à ce projet financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne et qui vise à relier Yaoundé, la capitale camerounaise, à N'Djamena, au Tchad. De son côté, l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Wu Vuidi, a dit avoir discuté de la question avec le président de l'Assemblée nationale camerounaise, Cavalier Yegye Djibril, concernant les négociations sur le sort des 10 ouvriers chinois enlevés en mai dernier à Ouaza, dans l'extrême nord camerounais.
Bien sûr, on a parlé de l'événement dans la nuit de 16 mai, mais le président a bien voulu me dire ses consolations pour la libération le plus tôt possible de nos 10 compatriotes disparus.
Des parlementaires chinois viendront bientôt au Cameroun pour s'enquérir de l'évolution de ce dossier, a expliqué l'ambassadeur Wu Vuidi.
On doit renforcer encore davantage les organes des deux assemblées de Chine et du Cameroun. Mon but principal, c'est de communiquer la visite officielle du vice-président de l'Assemblée populaire nationale.
Lors d'un raid au mois de mai, des militants présumés de Boko Haram ont enlevé 10 ouvriers chinois et emporté 10 véhicules et un conteneur d'explosifs.
Bonjour, c'est Nicolas Pinot. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Pour l'ONG Médecins Sans Frontières, la recrudescence de cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest est telle qu'on peut dire que l'épidémie est hors de contrôle, Timothée.
De nouveaux foyers sont signalés en effet en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia, précise MSF et l'OMS. Le risque de propagation à d'autres zones est donc bien réel. Il faut agir, estime MSF, qui appelle à une mobilisation face à cette fièvre hémorragique. Camille Gros-Didier a joint le docteur Marc Ponsin, coordinateur national du bureau de MSF en Guinée.
La situation est plus alarmante qu'on ne pensait. Et qu'il faut augmenter la mobilisation de tous les acteurs qui peuvent aider à juguler l'épidémie. Donc aujourd'hui, une partie de la population n'adhère pas aux mesures de contrôle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a continuation de la propagation de l'épidémie. Une partie des gens ne croient pas à Ebola. Les malades se cachent. Les gens ne viennent pas se faire soigner au centre de traitement. Et la propagation continue. Aujourd'hui, c'est par la sensibilisation qu'on peut changer les choses. C'est la sensibilisation de la population. Mais cette sensibilisation, elle doit être faite par toutes les couches de la société civile, par tous les leaders d'opinion, qu'ils soient politiques, religieux, administratifs. Donc il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation générale au niveau de la société et de l'État pour convaincre les personnes récalcitrantes de venir se faire soigner. C'est à travers cette mobilisation qu'on peut y arriver. Un message qui est très important à porter en permanence, c'est qu'on peut guérir d'Ebola à condition de venir tôt dans les structures de santé. Et pour exemple, nous avons eu environ 60 patients qui sont sortis guéris de nos structures de santé. Donc on peut guérir de Ebola, mais il faut venir se faire soigner très tôt dans les structures de santé et ne pas se cacher.
Est-ce que vous avez le sentiment que la peur joue dans cette hésitation de certains à venir se faire soigner ?
Absolument, la peur joue un très grand rôle. Donc Ebola crée des réactions tout à fait irrationnelles et la peur joue un très grand rôle dans ces réactions irrationnelles. Il faut convaincre les gens par tous les moyens que Ebola est une maladie comme une autre, que le seul moyen de guérir de Ebola, c'est de venir dans les centres de traitement spécialisés. Et c'est la réponse au problème de Ebola. C'est une maladie dont on peut guérir à condition de venir se faire soigner. Il faut avoir confiance dans les structures de santé et les organisations qui répondent à la problématique de Ebola. C'est le seul moyen d'y arriver. Et il faut que toutes les couches de la population se mobilisent afin de endiguer cette épidémie qui est vraiment terrible et qui fait porter un très lourd tribut à la population ici.
Le docteur Marc Ponsin, coordinateur national de Médecins sans frontières en Guinée.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Maintenant le journal de la Coupe du Monde. C'est tous les jours sur nos antennes avec Béga Sikoura, ses invités et notre envoyé spécial au Brésil, bien sûr, Nicolas Pineau. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir cher Roubaix, bonsoir à tous.
Alors, les Pays-Bas et le Chili s'affrontaient.
Voilà, le match avait pour enjeu la première place du groupe, ce qui pourrait éviter donc à celui qui gagnait ce match, qui est donc les Pays-Bas, d'éviter éventuellement le Brésil, le pays organisateur. Donc les Pays-Bas ont remporté donc cette bataille 2-0 dans le match des battus, des éliminés du même groupe. L'Espagne a sauvé l'honneur en battant l'Australie 3-0. Tout à l'heure, Chérubin, le Cameroun affronte le Brésil dans la capitale Brasilia. Un match sans enjeu puisque le Cameroun est déjà éliminé. Et Nicolas Pineau, notre envoyé spécial au Brésil, nous fait le point.
Alors, sans enjeu pour le Cameroun, mais avec beaucoup d'enjeux pour le Brésil. Nicolas.
Et oui, le coup d'envoi aura lieu tout à l'heure, à 17h, heure locale. Une rencontre très attendue. C'est le 100e match de la Seleção en Coupe du Monde. Un joli record. Et évidemment, les jaunes et bleus doivent l'emporter impérativement pour s'assurer une place en 8e de finale. Pour cela, ils feront face évidemment aux lieux indomptables qui ont cher à prouver, qui doivent redorer l'image. Évidemment, après les péripéties du match contre la Croatie, perdu 4-0, et surtout l'expulsion de Song qui a été suspendu pour 3 matchs, et les deux joueurs qui s'étaient battus en fin de rencontre, les Camerounais déjà éliminés n'ont plus rien à prouver, et c'est peut-être ça justement le danger pour les Brésiliens. Tomber sur une très forte équipe camerounaise qui pourrait leur donner du fil à retordre. L'enjeu de ce match pour les Brésiliens, c'est absolument garder la première place pour éviter les Pays-Bas.
Et est-ce qu'on sait si Samuel Eto'o sera aligné ce soir ?
C'est toujours l'incertitude, Bagassi. Hier, lors des 15 premières minutes de la séance d'entraînement au stade Mané Garrincha, il ne s'est pas entraîné, il est resté sur le banc de touche à jouer avec son téléphone portable. Alors, s'est-il entraîné par la suite ? On ne le sait pas puisque cette séance est fermée aux journalistes. En tout cas, c'est le mystère. Il y a quand même de fortes chances qu'il ne joue pas puisqu'il avait déjà été forfait, évidemment, lors du match contre la Croatie et on avait vu le naufrage que ça avait été. Alors, à l'inverse, peut-être que le joueur va vouloir jouer coûte que coûte malgré sa blessure au genou. On aura la réponse tout à l'heure, Bagassi.
Et puis, il y a aussi cette rencontre, hein, Mexique-Croatie. Si les Croates arrivent à battre le Mexique, ils pourraient même passer, hein.
Oui, tout à fait, Bagassi. Un malheur au vaincu dans ce match. Et on va évidemment penser au gardien fabuleux, le gardien mexicain Ochoa. Va-t-il réaliser la même performance que contre le Brésil ? Là encore, il va s'agir d'un match très serré puisque les deux équipes en cas de victoire peuvent se qualifier. Léger avantage néanmoins aux Mexicains qui pourraient se contenter d'un match nul pour passer le prochain tour. Mais ça va être un match spectaculaire dans ce duel à distance, évidemment, avec le Brésil.
Et revenons sur le Cameroun.
Oui, c'est quand même, peut-être tu peux le dire, hein, c'est quand même une occasion ratée parce que Cameroun-Brésil, c'est l'affiche que tout le monde cherchait depuis des années.
Tout à fait, malheureusement, voilà, les Lions ont mal commencé la compétition.
Et ça va se dérouler sans enjeu. Mais les Camerounais quand même pourront toujours compter sur quelques irréductibles des supporters que Nicolas Pineau, notre envoyé spécial au Brésil, a rencontré. Reportage.
À quelques pas du stade Mané Garrincha, les nombreux hôtels voient défiler depuis le début de la Coupe du Monde les supporters du monde entier. La délégation camerounaise, elle, n'est pas très imposante. Il faut dire que de nombreux fans ont déjà quitté le Brésil, dégoûtés par le comportement des Lions indomptables lors des deux premiers matchs. Nilo Tapé, chef d'entreprise, a lui décidé de rester.
Nous sommes toujours là, bien que découragés. Bon, nous disons que nous supportons toujours le Lion. Nous n'allons pas changer de nationalité maintenant que les choses ont tourné au vinaigre. Ça, nous ne pouvons plus aller au deuxième tour, nous sommes conscients. Bon, on va vivre ce troisième match.
Pourtant, le voyage a coûté cher aux supporters camerounais, entre 3,8 et 4,2 millions de francs CFA, selon l'organisateur Laurent Djiki. Les départs anticipés des supporters sont donc un casse-tête pour cet ancien joueur. Il ne sait pas s'il va rentrer dans ses frais.
Ça devient difficile. Il y a des gars qui m'ont abandonné les chambres. C'est vrai que certains, bon, on peut les payer, mais d'autres, ça devient difficile parce que certains sont rentrés sans même payer leur chambre. Ils sont partis, ils sont tous partis. Mais on essaie de mettre les bouchées doubles pour essayer de... Parce que le 25, il faut partir. Moi, je quitte le 26 pour régler tous les problèmes, pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous savez, le Cameroun, les Camerounais ont souvent une mauvaise réputation de ce côté-là, mais nous essayons de faire des efforts pour qu'il n'y ait pas de mauvaise réputation au nom du Cameroun.
Les quelques Camerounais restés jusqu'au dernier match de Brasilia n'en sont pas moins déterminés. Ils espèrent que Samuel Eto'o et ses coéquipiers mouilleront le maillot pour redorer l'image bien ternie des Lions indomptables.
Ce que j'attends, c'est que le Cameroun puisse redorer son blason, bien qu'il soit déjà éliminé. Mais face à une mastodonte telle que le Brésil, le Cameroun doit prouver au monde entier qu'elle demeure une grande nation de football.
Les joueurs camerounais donneront-ils satisfaction à leurs supporters ? Réponse au coup d'envoi du match Cameroun-Brésil ce lundi à 17h.
Et voici à présent le coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin Ngwe qui revient sur le réveil des équipes africaines.
We celebrate the best African football. No wahala, fair play, fair play.
Bonjour. Une fois de plus, ce sont encore nos cousins anglophones de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana puis le Nigeria, qui ont enfin allumé ce week-end la mèche de l'espoir pour le continent africain, dont les plus optimistes commençaient à douter. En deuxième heure, et sans doute inspiré par une surprenante équipe d'Iran qui a poussé l'Argentine de Messi dans ses derniers retranchements, le Ghana a livré un match d'anthologie face aux favoris allemands, réduit à un rôle de sapeur-pompier, tant le feu d'artifice des Black Stars a illuminé le ciel de Fortaleza. Mais si la Mannschaft a péniblement réussi à desserrer l'étau, les néophytes bosniaques ont subi en dernière heure la loi des super Eagles du Nigeria, redevenus souverains pour une première victoire africaine, ouvrant la voie à la qualification la plus probable. Ce n'est que justice si la révolte est sonnée par ces deux pays qui n'ont cessé d'apporter à l'Afrique depuis des décennies d'innombrables titres mondiaux dans les catégories des jeunes, révélant la richesse du vivier et le sérieux de l'organisation pyramidale. Un exemple que devraient méditer les Lions indomptables du Cameroun ce soir à Brasilia dans un match référence de rachat contre la Seleção. À demain.
We celebrate the best African football. No wahala, fair play, fair play.
Voilà, tout à l'heure, ça va être le choc entre le Brésil et le Cameroun. Peut-être que les Lions vont sauver l'honneur. Et Chérubin, vous vous rappelez hein, ce match d'hier entre les États-Unis, les Américains qui pensaient aller directement en huitième de finale. Et puis, il restait quoi, 30 secondes ?
Certains d'entre nous sont passés tout près d'une crise cardiaque Bagassi parce qu'on croyait vraiment à une victoire américaine. Et à la fin... des arrêts de jeu.
Mais les Africains,
Varela a égalisé pour le Portugal.
Et les Africains ont aimé ça parce que ça permet au Ghana de rester dans la course. Une qualification des États-Unis désière aurait tout mélangé. Quoi.
Et puis, Chérubin, une consolation quand même, c'était un beau but.
De Varela ?
Oui, la tête plongeante, c'était...
Quelqu'un qui adore le but de l'ennemi.
Un but assassin.
Et ça rend les choses un peu plus compliquées aussi pour les États-Unis face à l'Allemagne.
Oui, mais apparemment, si les deux équipes font match nul, du coup, les deux seraient qualifiés. Les gens pensent au match de la honte de 1978 entre l'Allemagne et l'Autriche. Un match que les gens disent qu'ils avaient arrangé pour pouvoir éliminer l'Algérie.
Bagassi, la Belgique rencontrait la Russie hier.
Oui, la Belgique a battu donc la Russie 1-0 et l'Algérie a dominé la Corée du Sud 4-2.
Les Algériens qui définitivement font... font rêver. Voilà, c'était le journal de la Coupe du Monde. Merci, ouais, Magassi.
Voilà, on se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes dans Sporama pour revenir de long et en large sur la Coupe du Monde 2014 et sur la performance des équipes africaines.
Et aussi, on aura un classement des buteurs. Merci, Magassi. Cette édition a été mise en onde par Lionel Gaïma, assisté de Wagner Robert à la technique. Écrivez-nous sur Facebook. Ici, chez Robin Lorsil.
Timothée Donangmaï.